Bien, alors on est au numéro. Pardon ? Vayel Harana, il est allé en direction de Haran. Rabbanan Amré Benyomo. Les Rabbanan disent, il a fait le trajet en un jour. Et Rabbi Berchia, le Shem Rabbi Tzrak, lui dit, Amar, que l'Ishneon libriata ou plan asile les Kessarin vad kadun ou al zvadia. Et
je crois que je me suis trompé, on était à Zaïd après,
Et les rabbanans disent, non, enfin, Rabbi Brachia, au nom de Rabbi Israël, dit non, mais on a l'habitude de dire que quelqu'un est parti alors qu'il est en train de faire ses valoches. Plan asil kisarin vad kadun ou al zvadia. Il est encore dans les valises, dans les malles, comme ils disent. Harana, donc en direction de Haran, Tani, Beshem Rav Nechemia, Kol Davar Shehutzerech Lamed Betrilato, Itan Lohe Besofo. Il explique pourquoi Harana, parce qu'il y a une règle générale, une espèce de grammaire, qui dit que quand il faudrait mettre un Lamed devant pour dire il est allé le Haran, en direction de Haran, eh bien, on met un « hé » à la fin, on dit, au lieu de dire « l'isdom », on dit « sedoma », « le seir », on dit « seira », « le mitzraïm », « mitzraïma », « haran », « le haran », « harana ». Bon, qui est-ce qui se... Ça y est, on est nouveau parti pour... Et, alors la Gemara elle objecte, elle dit Etivim, pourtant c'est marqué Yashuv Rechaim Lishola, les Rechaim retourneront au Sheol, et là il y a le Lamed et le He. Donc si le He vient remplacer le Lamed, on n'aurait pas dû avoir le Lamed. Si on met le Lamed, on n'a pas besoin du He, on doit dire Lishol ou Sheola, mais pas Lishola. Comment on se débrouille avec ça? Rababa Barzavda Amar l'ambatir tartona chez Bachaol. C'est-à-dire, il est allé dans le Sheol, enfin, ils vont dans le Sheol, mais quand ils sont au Sheol, il y a encore un Sheol à l'intérieur du Sheol. Ça, donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand ils sont au Sheol, ils ne sont pas encore arrivés, il y a encore un Sheol en dessous du Sheol. Le Sheol étant la résidence des morts. Le Enfin, oui. C'est un homme, quoi. Bien, alors on peut se demander qu'est-ce que ça fait là, quoi. C'est une petite leçon de grammaire. Non, mais c'est un lieu. C'est le nom du lieu. Le lieu s'appelle Sheol. Non, mais c'est pour ça. Non, à partir du moment où on a expliqué pourquoi c'est marqué qu'il est allé Harana. Alors, l'endroit s'appelle Haran. Alors, on dit, le Midrash explique pourquoi on a écrit Harana, parce que on a le choix. On peut dire le Haran ou on peut dire Harana. Et il donne tous les exemples. Tout exemple, la Gemara Etime, c'est une objection. Tu me dis que c'est en lieu et place du Lamed. Et là, je t'apporte un exemple où on a à la fois le Lamed et le Hé. Alors, il s'en sort en disant, mais parce que il y a le Lamed pour dire qu'ils vont au Sheol. Et quand ils sont arrivés au Sheol, ils descendent encore au Sheol du Sheol. Donc, avec le Hé qui met encore un mouvement supplémentaire. Quoi?
Le et le A, ou bien...
Oui, c'est le Midrash qui le dit systématiquement. Il dit tout endroit où on aurait besoin de mettre ça, on peut mettre un E.
Oui. Mais est-ce que c'est vraiment des similaires, ou quand même, il n'y a pas une nuance, parce que je me demande si des fois, quand on dit Harana, ou Sukkota, est-ce que ça ne vient pas dire qu'en fait, il y a une étape intermédiaire? Alors que lorsqu'on dit le, ça veut dire je pars du point A et je vais au point B sans étape intermédiaire.
C'est possible que vous avez raison, mais ce Midrash, il n'en parle pas. Le Midrash, il a l'air de présenter les choses, mais... Alors vous voulez dire, alors
c'est tous des endroits où mauvais. Mais ouais, mais Sukkot par exemple,
il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, mais c'est Sukkota, je veux dire, c'est pas. Alors c'est très possible qu'en fait, donc qu'est-ce qu'on nous dit là? Quel est le problème qui est posé? C'est marqué, il est allé à Haran. Pourquoi les rabbins disent que c'était en un jour qu'il est allé? D'où est-ce qu'ils voient que c'est Ben Yomo? Ou est-ce que dans le texte, il y a quelque chose qui indique que c'était Ben Yomo? On ne voit pas, a priori, une indication que ce qu'il a eu... On sait qu'il a eu Kvitzata Derech, que, bon, il y a eu une accélération, mais dans le texte lui-même, dans les mots eux-mêmes... C'est-à-dire, mais oui, mais il y a un hé en trop. L'endroit s'appelle Haran, il ne s'appelle pas Harana.
Oui, mais bon, il faut quand même
dire qu'il y a été allé. C'est marqué, il y a l'air. Vayeler Harana.
Ouais, mais c'est vrai que si on avait dit Vayeler Le Harana, on aurait pu comprendre que le chemin, qu'il y avait une importance du chemin déjà.
Oui. La première discussion, c'est de savoir est-ce que quand on dit si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des positions complètement opposées. Les rabbanans disent Vayelech Harana, on pourrait très bien. Nous, en français, si on dit il va à un endroit, il y va, on ne sait pas où il en est dans son chemin. En français, on n'entend pas qu'il y est déjà arrivé ou Vayelech, il est allé à. Bon, il est allé maintenant. Si vous demandez à quelqu'un où est-ce qu'il est, bah, il est allé là-bas. Mais on ne sait pas où il en est. Je veux dire, il est allé au marché, il est sur le chemin de l'aller, du retour, il est au marché, etc. On n'en sait rien. Il est allé au marché, bah, il y a la Karana, bon voilà, on ne sait pas où il en est. Simplement, on sait qu'il est quelque part entre ici et Haran. Alors, les rabbinans lui disent, il y est déjà arrivé. Il y a la Karana en un jour. Ça veut dire que eux, ils se placent. Si on dit qu'il est allé à Haran, c'est qu'il y est déjà, quoi. Et les autres, à Berkha, ils disent pas du tout. Peut-être encore, il est assis sur ses valises. Il n'a pas commencé d'y aller. Donc, ils prennent des positions complètement opposées. Donc, sur la façon de dire que quelqu'un va quelque part, ça peut pas, on peut pas, lundi, ben, il y est déjà. Il est allé, bon, pas il va, mais il est allé à, ça veut dire qu'il y est déjà. Et il est allé là, ça peut aussi ne vouloir dire que, ben voilà, il a le projet d'y aller, il n'a pas encore pris le départ. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici finalement? On a ces positions et puis après au milieu, donc on a aussi une fois qu'on a expliqué le Harana, ça le dérange, le Midrash il se sent obligé d'expliquer Harana. En vérité, est-ce que c'est à sa place dans un midrash? Je veux dire, bon, c'est une remarque grammaticale presque. Mais peut-être que c'est intéressant à cause de l'objection. Ça nous dit quelque chose d'une espèce de Ambati à Tartona chez Bacheol, c'est-à-dire il est dans le puits le plus profond du Sheol. Est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'on veut dire par là que, comme vous avez fait remarquer, que tous les endroits parlent de situations difficiles, disons en tout cas pour Israël, ou pour l'humanité, etc., d'endroits pas très positifs? Alors est-ce qu'on veut dire par là qu'il est allé à Haran et que, quelque part, d'avoir dit... Vayelech Harana, est-ce que ça veut dire qu'il est allé dans un endroit qui est mauvais, mais qui n'est pas le plus mauvais, parce que sinon on aurait dit Vayelech Lecharana. Est-ce que le Midrash ne veut pas nous souffler en quelque sorte que on sait bien ce qui va lui arriver, n'est-ce pas, quand il va arriver là-bas, il va être ennuyé par la vanne, etc., roulé dans la farine par la vanne, etc. Mais d'un autre côté, il va quand même trouver là-bas de quoi construire il va épouser des filles avec lesquelles il va pouvoir construire le clan d'Israël. Ce qui fait que, bon, c'est difficile de dire qu'il a vu que des choses... Il n'y avait que des choses négatives. Donc peut-être la mention de « il y a pire », on peut marquer... Le chemin, mais quand on peut marquer qu'il y a un chemin dans le chemin, c'est-à-dire que quand il est arrivé là-bas, s'il est négatif, ça aurait pu être encore plus négatif en fait. C'est une possibilité. Maintenant, bon, c'est pour l'instant, c'est ce que je...
Il faut traverser le Jourdain pour aller à Haran.
Attends, d'où est-ce qu'il est parti, vers Sheva? Le Jourdain, non, je crois pas. Non, je peux montrer, c'est plein nord, quoi. Enfin, en général, quand on va dans le nord, c'est pas le nord dans la Torah, c'est pas c'est l'endroit d'où vient le mal, quoi. C'est Tsafon, Tipatahara, le mal vient du nord. C'est la Syrie, quoi. C'est l'Irak, la Syrie, etc.
C'est pas Eretz Canaan.
Haran, non, c'est non. C'est Haran, c'est là où est. Là où Abraham Avinu s'est arrêté. Et là où Terach est mort.
Mais c'est les nord d'Eretz Canaan.
Non, non, on est encore au nord, on est en Syrie encore.
Oh, ça, c'est pas dans l'Eretz Canaan.
Non, non, c'est pas dans l'Eretz
Canaan. C'est par rapport à Béomo aussi.
Voilà, je crois que c'est ça. Il me semble que de ce midrash, ce qui concerne Yaakov, c'est ça qu'on peut sortir, c'est que justement ce Haran là, c'est un Haran négatif, comme vous avez fait remarquer. Les endroits sont, c'est des endroits d'exil, les endroits de le lieu d'Essav ou Sdom, c'est-à-dire un lieu pourri, un lieu d'Essav ou le lieu de l'exil de Mitzrayim. C'est les exemples qui se sont donnés ici, n'est-ce pas? C'est Sdom, c'est Sdom, comme chacun sait. Seir, c'est l'autre nom d'Esav. La chône Seir, poilu. Et Mitzrayim, on sait ce que ça représente pour le clan Israël. Et donc, Haran, c'est aussi un lieu négatif. Il est dans la liste. Mais avec la remarque de, mais tu vois bien qu'il y a, plus que ça. Oui, c'est vrai. Mais il y a pire, quoi. Il y a encore pire, mais ça c'est le Gehinnom. Le Gehinnom, le plus bas niveau du Gehinnom, il est avec un Lamed et un Hé. Quand on n'a qu'un des deux, c'est déjà pas mal. Mais pas complètement négatif. C'est-à-dire que finalement, de Sdom, il est quand même sorti Lot. Il est sorti Lot avec ses filles. Et ses filles, elles sont les ancêtres de la royauté d'Israël, les ancêtres du Mashiach. C'est pas rien. D'Esav, la fin des temps, Esav il va se rallier, quoi, quelque part, et de Mitzrayim, on a souffert en Mitzrayim. D'abord, c'était un lieu de refuge, on a été nourri là-bas, quand Yosef y était. Ensuite, on y a souffert, mais quelque part, c'est d'une certaine manière la mère du clan d'Israël. Le clan d'Israël est né. Il était quasiment accouché là-bas de Mitzrayim. Et à Haran, on a construit Yaakov a construit le clan d'Israël. Il a trouvé les quatre femmes avec lesquelles, enfin, c'est deux femmes et deux servantes, mais enfin, qui sont ses femmes à lui, d'accord, qui sont amis, tout le clan d'Israël. Nous venons tous de Haran. Sachez-le. Si on vous demande d'où vous venez, vous pouvez dire je viens de Haran.
Tous
les Haran, sauf Miriam. Oui, en plus. Oui. Excusez-moi,
en plus, il n'y a pas, je ne sais pas si c'est dans mon opposition, mais on dit qu'il était en une journée. Mm-hmm. Et de dire que quelqu'un qui fait ses valises, il n'est pas. Qu'est-ce que ça contredit en fait? Qu'il n'est pas. Quelqu'un qui est parti, qui est encore en train de faire ses valises.
Oui, ce qu'on veut dire, c'est que dire que quelqu'un est allé, va y aller à un endroit, ça peut, les uns disent, ça veut dire qu'il y est déjà. Et donc, quand on dit, il est sorti de, va y aller Harana, il est sorti de Beersheba, va y aller Harana, quand il est sorti de Beersheba, il y était. Bon, il y a eu Kvitsata Derech, on va expliquer qu'il a eu contraction du chemin, et effectivement, il arrivait très vite là où il devait arriver. Non, mais peut-être que Vayelech Harana, il est sorti de Beersheba, et on dit tout de suite qu'il est arrivé à Harana. Ça veut dire qu'on veut dire par là que la Gemara, le Midrash ne dit pas que ici, il dit que l'expression Vayelech quelque part, ça ne veut pas dire du tout obligatoirement qu'il y est déjà. Puisque ça peut même vouloir dire qu'en fait, il a pas encore bougé du tout. Il est encore assis sur ses valises. C'est pas lui, hein, pas, eux ils parlent pas lui. Ils disent tu peux pas déduire ce que tu déduis parce que c'est au moins neutre quoi. Parce que tout l'éventail y est. C'est-à-dire que toi tu dis qu'il y est déjà, moi je dis qu'il peut encore être là-bas. Mais en vérité ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être n'importe où entre les deux. C'est ça, à mon avis c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et alors, Vaïf Gaba Makom, Avuna Beshem Ravami Amar, Mipnema Mechanin Shmoshel Akadosh Baruchu, le Korin Otom Makom. Vaïf Gaba Makom, littéralement, ça veut dire il a touché le lieu, le Makom. Et le Midrash, tout à coup, il dit, mais un Makom, c'est un nom divin. Alors il dit, bon, c'est un nom divin, mais alors pourquoi c'est un nom divin? Pourquoi on a décidé, Mechanin Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'on a, le Chanot, ça veut dire, c'est comme quand on donne un surnom. Pourquoi on nomme autrement que par son nom Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on ne dit pas systématiquement qu'on veut parler d'Hachem Akadosh Baruch Hu ou bien Hachem? Pourquoi tu utilises ce kinouï? C'est-à-dire que c'est un mot pour un autre, un mot pour un autre mot, quoi. Pourquoi tu as pris, on aurait pu prendre, quand vous prenez le tétragramme, il a pas obligatoirement un sens. On lui a donné un sens, mais bon, on pourrait écrire des points ou bien 3-4 points ou n'importe quoi. Quand tu prends un mot qui a un sens, Makom, ça a un sens, ça veut dire lieu, tout le monde est d'accord que c'est le lieu. Alors maintenant, pourquoi est-ce que on va utiliser ce nom-là, ce nom commun-là, comme nom propre en fait pour Hachem, si on parle comme ça? Mechanin et Vekorin Oto Makom. Donc pourquoi Bichlal on a pris un kinouï et pourquoi on a choisi Makom? C'est ça la question de la Gemara. Je dis tout le temps la Gemara, mais c'est le Midrash. Alors on interprète, c'est l'interprétation que tout le monde connaît. Chehu Mekomo Shel Olam. Il est le lieu du monde. Ve'en Olamo Mekomo. Et son monde n'est pas son lieu. Et le Midrash dit Minma Dirtiv, du fait qu'il est écrit dans le verset Hine makom iti. Voici un lieu avec moi. Auprès de moi. Iti, auprès de moi. והקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. De là on voit que il est le makom, que Hachem est makom du monde. Et le monde n'est pas son makom. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, voilà, Moshe Rabbeinu a intercédé pour le clan Israël. Et il a aussi demandé à Hachem de fais-moi voir ta... Il a demandé, fais-moi... Odienina et drachecha, fais-moi connaître tes voies, vedacha, que je te connaisse, le manem tsachen beenecha, pour que je trouve grâce à tes yeux. Urehe ki amcha hagoyaze, regarde, ce peuple-là, c'est ton peuple, donc conduis-toi avec lui. Alors Hachem a répondu, ok, je m'occupe d'eux, je vais les abandonne pas, etc. Et après, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, « Gamet adavar azé asher dibarta et se ki matzat achen be'enai ve'edahacha be'shem. » Il fait le contraire. Hachem lui dit, « Ce que tu as demandé, je le ferai, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, ve'edahacha be'shem, et je te connaîtrai par ton nom, en quelque sorte. » Lui a demandé, fais-moi connaître en quelque sorte tes voix, c'est-à-dire ton nom. Et Hachem lui dit, moi je te connais par ton nom. Ça veut dire, connaître quelqu'un par son nom, c'est connaître ses midot, connaître, c'est une connaissance aussi approfondie que possible. Vayomer, du coup, Moshe Rabbeinu lui a dit, Arenina et Kvodecha, montre-moi ta gloire. Moshe Rabbeinu a compris que, puisqu'Hachem est en... Il est de bonne composition par rapport à lui, si on ose parler comme ça. Il s'est dit, ben, je vais demander, montre-moi ta gloire. Alors Hachem lui a dit, Vayomer ani avir kol tuvi al panecha. Je ferai passer devant toi, devant ton visage, toute ma bonté. Vekarati veshem Hachem le panecha. Et moi-même, c'est Hachem qui dit, je nommerai le nom divin devant toi. Je sais pas, on ne sait pas ce que ça veut dire. Vechanoti et Asher Achon, Vechamti et Asher Achem, je ferai grâce à qui je ferai grâce, je serai tendre à l'égard de celui que je voudrais, auquel je voudrais donner ma tendresse. Mais il lui a dit, Lo tuchal lirot et panai, ki lo irani adam vachai. Mais tu ne peux pas voir mon visage, parce que un homme ne peut pas me voir et vivre. C'est-à-dire, c'est incompatible. Alors Hachem lui dit, Vayomer Hachem, Hine Makomiti, Venitsavta Alatsur. Voilà, il y a, littéralement ça veut dire, Hachem lui a dit, voici un lieu avec moi, et toi tu vas te tenir sur le rocher, Vayab Avor Kvodi, et quand ma gloire passera, Samticha Benikratatsur. Je te mettrai dans une infractuosité du rocher, Vesakoti Kapi Alecha, et je mettrai ma main au-dessus de toi, Ad Ovri, jusqu'à ce que j'ai passé. C'est-à-dire, voilà ce que tu vas pouvoir voir, rien du tout. Quoi. Je vais te mettre dans le rocher, et je mettrai en plus ma main pour que, bien sûr, que tu ne vois rien, et je passerai, mais tu sauras que j'ai passé, quoi. Quelque part, bon, peu importe, ici on n'est pas en train d'essayer de comprendre désespérément ce que vient vouloir dire ces versets, mais en tout cas ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 21, donc, « Vayomer Hashem, hine makom iti. » Voici, hine, makom iti. Makom est avec moi. En France, si on ne savait pas ce que c'était, on dirait, si on ne sait pas que c'est Hachem qui parle, etc., on dirait, si quelqu'un dit, Iné, ma comité, voilà, tu veux entrer dans la diligence avec moi, voilà, j'ai dans ma voiture, voilà, et ma comité, il y a une place avec moi. On peut le dire à la voiture, on n'est pas obligé de le dire les diligences, je ne sais pas pourquoi je pense les diligences, ça fait plus ancien, quoi, mais bon. Oui, en plus, vous avez raison.
Finalement, c'est un peu bizarre que Moshe a compris que Hachem était dans un moment favorable, hein, mais il n'a pas compris tout de suite. Finalement, si tu lui dis prendre la place que. Je te laisse de la place, quoi.
Non, Iti, avec moi. Ah oui, tu veux dire, je te laisse de la place, tu veux dire, oui, on pourra pas, oui. Mais c'est ce qu'Hachem lui a dit, hein, une place avec moi, mais en fait, nous, on ne va pas le dire comme ça. On va dire, il y a avec moi Makom. C'est comme si Hachem, il a son kinouï. C'est comme si j'ai un autre nom qui s'appelle Makom. Avec moi. Avec moi, c'est Hachem qui parle, n'est-ce pas? Hachem dit, Iné makom iti. C'est Hachem qui parle, il dit, il y a un makom avec moi. Alors on le lit comme si de là on entendait que Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est mekomo shel olam, venolamo mekomo. C'est-à-dire, le makom, lui, il n'est pas dans le makom, puisqu'il dit makom iti. À côté de moi, il y a un makom, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, c'est à côté de moi, c'est moi, je lui fais un makom. Je suis le lieu du makom. Mais le makom n'est pas mon lieu. Bon, alors en français, ça dit la chose suivante, n'est-ce pas? Quand vous voulez dire que quelque chose existe, en français, vous pouvez dire la chose a lieu. C'est comme ça. Yesh makom là d'abord. Yesh makom, ça veut dire la chose a lieu. Elle existe. Quand vous voulez dire, c'est comme ça qu'on dit en français, n'est-ce pas? La chose a lieu. Donc on a cette expression-là, que la chose a lieu. Alors, en vérité, donc toute chose pour exister, a besoin d'un lieu. Alors, la façon de dire que Hachem n'existe pas, si vous voulez, au sens habituel du terme, c'est de dire que le monde n'est pas le lieu d'Hachem. S'il n'est pas le lieu d'Hachem, alors du point de vue de l'existence ordinaire, Hachem n'a pas lieu. Et d'un autre côté, c'est tout au contraire, le monde qui est le lieu de toute chose est dans le monde, donc il n'est que quelque chose qui n'a lieu, le monde n'a lieu qu'en Hachem, quoi, si on veut parler comme ça. C'est Hachem qui est le lieu du monde. C'est Hachem qui fait exister le monde et pas le monde qui fait exister Hachem. C'est ça qu'on dit là.
Le problème, c'est le mot exister.
J'ai ajouté exister parce que c'est la traduction de avoir lieu. On peut dire, le monde n'a pas lieu. Non. Akadosh Baruch Hu est le lieu du monde. Donc le monde a lieu grâce à Hachem, si vous préférez, mais Hachem n'a pas lieu grâce au monde. Et donc si la définition de d'exister, quoi, c'est avoir lieu, ben, il n'existe pas. Et effectivement, il n'existe pas à la manière des créatures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'Hachem ni qu'il existe, ni qu'il n'existe pas, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire du tout. Le mot exister pour Hachem n'a pas de sens. Donc il ne faut pas l'utiliser. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que En général, c'est ce que je dis quand on me demande, si on me pose ce genre de questions, c'est au Dieu auquel vous croyez, je ne crois pas non plus. C'est tout.
Et même le mot être non plus, il n'y a pas Dieu.
Non. Tous les arbres doivent avoir un. Donc, Akadosh Baruch Hu est le lieu du monde et le monde n'est pas son lieu. Amar Rav Yitzchak, Ktiv, Meona Elokei Kedem, Maon, vous vous souvenez dans l'Agmara de Chagiga, Maon c'est un des noms des sept cieux. Vous vous souvenez, il y a sept cieux qui existent et l'un d'entre eux s'appelle Maon. Meona Elokei Kedem. Donc ici, si on prend ce texte de ce Rav Yitzchak, Mona, c'est son Maon, son lieu, Elokei Kedem, donc lieu, Elokei Kedem, du Dieu de ancien. Kedem, c'est des fois aussi l'Est. Mais là, probablement que ça veut dire l'éternité, quoi. Kedem d'avant, ancien.
C'est pas du antique.
Ouais, c'est pas plus mal. Enanu yodim, im akadosh baruch hu meono shel olam, im olamo meono. Dit, nous ne savons pas, et le Midrash est gonflé là, nous ne savons pas si Akadosh Baruch Hu est le Maon du monde, encore une fois la résidence du monde, Vim Olamo Meono, ou bien si c'est son, alors c'est un peu paradoxal, si c'est son monde, on utilise le son monde, n'est-ce pas, qui est sa résidence. Si tu dis son monde, c'est difficile de dire qu'il est sa résidence. D'accord, il faudrait dire s'il y a un endroit qui s'appelle Makom, qui est sa résidence, mais si tu dis son monde est sa résidence, il y a une contradiction dans les termes. C'est pas son monde s'il est sa résidence. Est-ce que ça veut dire... Son monde est sa résidence, ça veut dire que lui, il est à l'intérieur de ça, donc le monde n'est pas à lui. C'est difficile d'imaginer que son monde est sa résidence. A priori, quand vous dites son monde, vous pensez que le propriétaire du monde est plus grand que le monde. Or, quand vous dites la résidence de sa résidence, c'est son monde, c'est difficile à dire, parce que ça voudrait que la résidence est plus grande. Donc, à la fois, son monde serait à la fois... plus grand et plus petit, donc. En tout cas, on ne sait pas. Jusqu'à ce que min ma dirtiv, du fait qu'il est écrit dans Tehilim, Hashem ma'onata, avec Akadosh Baruch Hu, me'ono shel olamo, ve'en olamo me'ono. Étant donné que c'est écrit dans le verset de Tehilim, Hashem, tu es un ma'on, donc tu es une résidence, alors je sais que Akadosh Baruch Hu est Meono shel Olam, Ve'en Olamo Meono. Amar Rabbi Abba Bar Yudan, à quoi ça ressemble? Le Gibor Shurochev Alasus. C'est un guerrier, un costaud, qui est sur son cheval. Vekelav meshupaim elach ve'elach. Et ces armes, ou ça pend des deux côtés du cheval. Lui, il a ses armes, et ça pend des deux côtés du cheval. Elach ve'elach. Asus tfela la rochev. Évidemment, le cheval est secondaire, il est au service du cavalier. Vena rochev tfela la sous. Mais le cavalier n'est pas tafel, il n'est pas à quantité négligeable par rapport au cheval. Comme on dit dans le pasouk, qui tire kaval sous secha. Quand tu chevauches sur ton cheval, donc c'est le possessif ici indique bien que le maître c'est le cavalier, il est le maître du cheval. En fait, qui tire kaval sous secha, c'est un pluriel, n'est-ce pas? Il y a un yud sous secha, tes chevaux. Alors, visiblement, lorsque ce Rav Abba Bar Yudan, il dit le gibor chez Urochev, etc. Ça veut dire qu'il veut nous expliquer ce qui se passe. Il veut expliquer quelque chose qu'on n'aurait éventuellement pas bien compris dans ce qui a été dit précédemment. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Quand il dit le gibor, ça veut dire, c'est comme si c'est un raccourci pour dire le ma d'avar domé, à quoi ça ressemble, quelle est la parabole qui correspond. Ça correspond à la situation dont nous parlons ici, du problème de la demeure, être la demeure de, ou être dans la demeure, etc. Si Hachem est le Makom ou le Mahon du monde, ou si c'est le monde qui est son Makom ou son... ce qu'on veut dire, c'est que ça n'est pas le cas. Que le monde ou le... Oui, que son monde n'est pas son Makom ni son Mahon. Ça a besoin d'un éclairage, semble-t-il. Et cette dernière phrase-là, elle vient éclairer, elle est censée venir nous aider à comprendre quelque chose qu'on ne comprendrait pas directement dans les termes. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il nous parle du cavalier sur son cheval. Alors, ce qui est problématique dans l'affaire, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit que les armes sont de part et d'autre? Tout ce qu'il a dit sur tu chevauches tes chevaux, quoi, ben, ça pouvait se dire sans faire référence aux armes. Donc, qu'est-ce que ça change? Visiblement, ça a l'air d'avoir une importance que les armes soient de part et d'autre. Si les armes étaient entièrement d'un seul côté, donc s'il avait que, je sais pas, l'arme du côté droit, ou s'il est droitier, ben, pour sortir son arme, on doit se demander pourquoi avoir mentionné que les armes pendent de ci et de là dans la parabole. Et puis ensuite, la question qui se pose, c'est en quoi ai-je besoin d'une parabole et en quoi la parabole en question m'aiderait à comprendre quelque chose que je n'ai pas compris d'abord. Je ne sais pas ce que je n'ai pas compris et je ne sais pas évidemment en quoi c'est une question secondaire. Enfin, qui vient seulement après la première. Je ne sais pas comment la parabole en question va m'aider à comprendre ce que je n'ai pas compris. C'est déjà tout un programme, n'est-ce pas? Une Sion qui n'arrête pas de se marrer. Mais bon, c'est pas parce que je ne te vois pas que je ne t'entends pas.
Le cavalier a besoin du cheval pour avancer.
Il a besoin du cheval pour avancer, oui. Donc on pourrait dire, il a besoin du cheval peut-être, on va aller jusqu'au bout de votre idée, il a besoin du cheval pour avancer, il n'a pas besoin du cheval pour exister. On peut dire que le cheval n'a pas besoin de lui non plus pour exister, donc c'est match nul.
Mais est-ce que les armes de part et d'autre, ça sert au cavalier ou au cheval?
A priori, vous avez déjà vu le cheval... les armes. Oui, alors on pourrait dire que c'est de part et d'autre pour répartir les poids. Mais à quoi ça sert les armes là-dedans?
On dit
facile. Oui. Mais les deux, c'est les deux sont les armes.
Alors,
l'amidata rachamim. Oui, non, c'est les armes du cavalier.
Hein. Ouais, enfin bon. D'accord. Les armes du cavalier, au moyen pour le monde d'avancer et d'accomplir le but divin. Si on essaie en fait ici.
Mais pourquoi on a besoin des armes pour ça?
On essaie de comprendre la parabole.
Oui, mais pour l'instant, je voudrais d'abord essayer de comprendre ce que je ne comprends pas et pourquoi j'ai besoin d'une parabole. Je n'ai pas compris en quoi, qu'est-ce qui n'était pas clair dans l'affaire. Ou alors, peut-être on peut procéder comme vous voudriez le procéder. Regardons, qu'est-ce que la parabole me dit de différent de ce qu'on a dit précédemment. C'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. On va regarder la parabole. La parabole dit quelque chose que je n'osais pas dire quand je parlais en termes de monde et de c'est-à-dire le couple. Et justement, le problème, c'est que dans le couple dont nous parlons, monde et Akadosh Baruch Hu, ce couple-là, a priori, correspond au couple cavalier, qu'est-ce que j'ai dit, monde, Akadosh Baruch Hu, cheval-cavalier, et la différence, c'est les armes. Donc la différence, ce sont les armes. Justement, mais donc en disant que les armes sont de part et d'autre, du cheval, donc aussi du cavalier d'ailleurs, n'est-ce pas, on est en train de dire quelque chose qu'on n'entendait pas dans le couple monde, Akadosh Baruch Hu et le monde. Oui, mais dans ce cas-là, vous êtes en train de faire. Il y a trois termes dans la parabole, il n'y en a que deux dans le Nimshal.
Le monde et des armes. Et que symbolisent les armes,
en gros. Oui, qu'est-ce que les armes. Et visiblement, comme c'est ça la différence.
Oui.
Oui, d'accord, mais vous avez déjà dit que le cavalier, c'est déjà le moyen.
Il y a quelque chose qui est en dehors du monde et de Dieu, c'est donc le cavalier, c'est.
Le cheval, pardon.
Le cheval, c'est le monde.
Oui, alors. D'accord, et alors. Ce qu'on veut, semble-t-il, expliquer, c'est quelque chose qui va s'expliquer, qu'on n'ose pas dire en termes de monde et d'Akadosh Baruch Hu. Alors, en général, ce qu'on n'ose pas dire, c'est, on n'ose pas dire quelque chose qui, éventuellement, ne serait pas pour le kavod d'Hachem. C'est-à-dire, ou bien on dirait une faiblesse d'Hachem, ou bien une force trop grande attribuée au monde. Et donc les armes viendraient dire quelque chose dans ce domaine-là. Alors regardons un peu ce que disent là les juifs, là, les commentateurs.
Le cavalier, il est cavalier. Est-ce que ici la notion de cavalier, ça implique le fait qu'il soit armé?
Oui, c'est ce que
vous dites. C'est la qualité de cavalier, on peut monter à cheval. Est-ce que ici la notion de cavalier, c'est la notion d'un soldat?
Oui.
Et donc, le fait que. Donc, l'essentiel ici, c'est que il a des armes.
Oui.
Et le fait qu'il y ait des armes de part et d'autre, ça veut dire que par sa qualité de porter des armes, ces armes entourent le cheval. Ça veut dire que Hachem, il entoure le monde. Il est donc au-dessus du monde. Si on fait la correspondance cavalier, si on fait la correspondance cheval-monde, le fait que le cavalier, avec ses attributs qui sont ses armes, entoure le cheval, il entoure le monde, donc il est au-dessus du monde.
Oui, mais à ce moment-là, on pourrait dire cavalier sans armes. Voilà. Là, ce que je comprends, c'est qu'on ne peut dire cavalier que c'est inhérent à son statut. Le cavalier, c'est le guerrier. Enfin, mais ça me parle, j'ai l'impression que. On escamote quand même dans cette version-là le fait qu'il y ait des armes. Les deux termes, on les contracte en un seul. Mais du coup.
On est bien un petit peu obligé si on veut dire que ça, c'est la parabole qui va nous aider à comprendre le nimshal, la situation. Il faut bien passer de 3 à 2. On a 3 choses. Et là, on en a, et on veut expliquer 2. Donc il faut bien qu'on... Le standard, c'est de dire que une des choses, il faut. Pardon.
Vous voulez arriver à 2-2.
Non, je voudrais quoi? Ah, des deux de le côté, oui, oui, d'accord.
Donc on va de 2, on va de 3, on va en faire 2.
C'est ça, c'est ce que fait
notre ami.
Il y a 2 possibilités. Ou vous dites que les armes sont du côté du cheval, ou les armes sont du côté du cavalier. Alors, elles sont du des deux côtés du cheval, c'est vrai. Mais ce sont les armes du cavalier.
Oui, comme si s'il n'y avait pas eu les armes, on voit bien que le cavalier entoure le cheval.
On peut déterminer la façon de chevaucher le cheval fait qu'il entoure le cheval, le cavalier. Mais d'une façon, mais ce qu'on veut, c'est qu'il l'entoure avec quelque chose qui n'est pas aussi fortement lui que ses jambes, quoi, si vous voulez. Il faudrait comprendre ici qu'on veut mettre une nuance et dire que ce qui entoure le cheval, ce ne sont pas les deux jambes du cavalier, qui en fait l'entourent effectivement. Quand vous chevauchez, là, vous avez l'habitude, quand vous allez repartir avec votre cheval, vous verrez que vous avez, a priori, vous n'êtes pas assis en Amazon.
Les armes du guerrier, elles sont faites pour dire qu'il y a une certaine force, mais elles ne sont pas faites pour dire qu'il y a une certaine force envers le cheval. Ça veut dire qu'il a une certaine force envers l'extérieur. Donc là, si on prend si on fait une analogie, Hachem n'a pas de la force pour maintenir le monde. Enfin, on imagine que oui, enfin bon, je ne sais rien. Mais donc ces armes, elles ne sont pas dirigées. Ça me paraît, l'analogie avec le guerrier, ou le cavalier, c'est comme s'il voulait démontrer qu'il maintenait le monde pour avoir une force sur l'extérieur.
Non, mais il n'y a pas d'extérieur du monde.
Il n'y a pas d'extérieur.
Le monde, c'est tout l'extérieur. Ouais, c'est tout.
Mais le cheval, moi je reste sur la parabole.
Mais oui. Le cheval, il est entouré par les arbres. Et donc, il est protégé par les arbres. Les armes, elles ne sont pas dirigées contre lui.
Non.
Les armes, d'une certaine manière, les armures du bonhomme, elles protègent aussi le cheval, la monture.
Donc la monture étant le monde, et il vous protège.
Il est protégé,
le monde est protégé.
Oui, donc c'est ça qu'on veut dire quand vous êtes. Quoi ?
Il est protégé de l'extérieur.
De quel extérieur ?
De ce qui est extérieur au cheval ou au monde.
Il n'y a pas d'extérieur au monde. Mais le monde est protégé, c'est-à-dire il est pris en compte. Quand on protège quelque chose, ça veut dire qu'on le prend en charge.
Oui.
Donc Hachem prend en charge le monde. Il est la demeure du monde.
On n'a toujours pas besoin des armes dans ce cas-là.
Si.
Il chevauche.
Non, parce que justement, ce qu'on veut montrer, c'est que ce qui protège, me semble-t-il, c'est que c'est un guerrier qui a des armes, c'est vrai, mais il existe indépendamment de ses armes, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire que parce que si vous dites que les armes sont une partie de lui-même, ce qui serait le cas des jambes du cavalier, alors...
Non, c'est son statut. Et un cavalier, son statut. Il ne peut pas avoir d'armes.
Non, mais je crois que ce n'est pas ça. Je crois que ce que je voudrais dire, c'est que le cavalier existe, lui, en tant que tel, en dehors de ses armes. Les armes, il les a quand il joue le rôle de guerrier, quand il est sur son cheval. C'est pas... Et ce qu'on veut dire par là, c'est que, enfin, ce que j'entends moi là-dedans, c'est que quand on dit qu'Hachem, que l'Akadosh Baruch Hu est Mekomo et Ma'on du monde, du lieu, il est le lieu du monde et il est sa demeure, une demeure, une résidence, ça protège.
L'enveloppe.
Ça enveloppe le monde, ça enveloppe ce qui est dans l'intérieur. La maison est faite pour protéger les gens qui se trouvent à l'intérieur. Mais la fonction protection, si on veut, ça n'est pas toute la maison. La maison, elle fait aussi autre chose que de simplement protéger. La maison, elle crée un intérieur, par exemple.
Alors, allez-y.
Pardon ?
Tu peux ce que c'est que ces armes, là ? Dites-nous un peu à quoi correspondent ces armes, alors.
Non, ce que je veux dire, c'est... Ben, c'est ça qui fait que c'est qu'il est la demeure du monde, mais que il n'est pas que ça. Oui, c'est difficile, j'aime pas la terminologie, il existe. Il existe indépendamment de cela. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas réduit à la fonction demeure du monde. C'est ça que je crois qu'on veut dire en utilisant les armes et pas les jambes du guerrier. Les jambes du guerrier, si c'était pour entourer cette idée, bon, c'est une façon de... La question se pose, est-ce que quand vous chevauchez un animal, est-ce que vous l'acquérez ? Est-ce que c'est un moyen d'acquisition ? Et que c'était comme ça qu'on mettait la main sur des animaux sauvages, des chevaux, etc. On le chevauche, on le maîtrise, et comme ça on l'a acquis. Celui qui le chevauche, d'une certaine manière, il l'a acquis. C'est une façon d'acquérir. Mais du coup, si on veut, ce qu'on veut montrer, on aurait donc pu dire la même chose, c'est-à-dire chevaucher le monde, c'est l'acquérir, c'est le maîtriser, c'est effectivement, éventuellement aussi le protéger, mais on le protégerait avec une partie de soi-même, c'est comme si on ne pouvait pas faire autre chose, comme si on n'était pas autre chose que simplement le protecteur, que la demeure du monde. Si vous voulez, comme si on disait, si on ne mettait pas dans l'image, me semble-t-il, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette image du guerrier, s'il n'y avait pas la notion des armes, on pourrait penser qu'il n'est que ça. Et que ça veut dire qu'à la limite, on pourrait voir Akadosh Baruch Hu comme les règles de fonctionnement du monde, qui protègent le monde.
Mais dans ce cas-là, les armes n'ont aucune valeur symbolique.
Si, justement. Les armes montrent qu'il y a une protection, mais que le guerrier n'est pas... C'est un guerrier qui n'est pas que guerrier. Un guerrier, c'est un homme. Pardon ?
Il n'est pas que bouclier.
Ouais, c'est vrai. Il n'est pas réduit à la protection du monde.
Ben non, c'est ça. C'est-à-dire que ici, cette parabole sur les armes ne servirait, entre guillemets, à nous dire que Hachem n'est pas seulement
la demeure du monde, le lieu ou la demeure du monde. Il est autre chose, mais entre autres, il est la demeure du monde. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas les armes qui sont ce symbole, qui sont ce symbole. Les armes sont une façon de montrer que il existe une fonction. Quand on dit Hachem Ish Milchama, d'accord, on dit dans la Shira, sur le passage de la mer, on dit Hachem Ish Milchama. Hachem est un homme de guerre. Hachem a fait la guerre pour, c'est marqué, vous taisez-vous, Hachem Ilachem Lachem. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël, arrêtez de prier, arrêtez de crier, avancez, la guerre c'est Hachem qui s'en occupe. Et donc, mais c'est Hachem qui s'en occupe, et Hachem il est autre chose que ça. Or, je pense que pourquoi est-ce qu'il amène cette parabole, là, qu'est-ce qu'on n'avait pas compris ? Il y a une ambiguïté, parce que quand on dit, je ne sais pas si Akadosh Baruch Hu est la demeure du monde ou le lieu du monde ou si c'est le monde qui est ça, mais ça veut dire que en fait ils sont il y en a un qui est l'écorce mais qui n'existe pas autrement, celui qui serait la demeure d'eux, il ne serait que ça essentiellement, il serait demeure.
Moi personnellement je ne peux pas comprendre le questionnement des rabbinim là-dessus, parce que je veux dire on sait que c'est Hachem qui a créé le monde, pourquoi il se pose la question de savoir si
d'où vous savez que c'est Hachem qui a créé le monde ?
C'est marqué dans le premier chapitre.
Oui, vous savez, les lectures de l'Oréchid Bara et le Kim Tachamim Taharetz, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de... Mais vous avez raison, je suis aussi d'accord avec vous. D'accord, non, vous ne pouvez pas sortir du Beta Midrash. Il dit, j'ai eu la chutzpah de dire que ça avait créé le monde, je me suis fait virer du Beta Midrash. D'accord, non, c'est pas ça tout à fait. Ben c'est, le Midrash, il te dit, voilà, c'est ça la question qu'on pose. On pourrait imaginer qu'il est le créateur, si vous voulez, du monde, mais il n'est que ça. Vous avez des gens qui n'ont fait qu'une seule chose dans leur vie. Alors il est génial, mais en fait il est réduit à ça.
Parce que je crois à l'algorithme, à part le fait qu'il a créé, ok, mais maintenant est-ce qu'il intervient ? C'est pas vraiment.
Nous, le Soumirage, il est en position de Dieu des philosophes.
Quoi ?
Bon, je peux pas, je sais pas te répondre parce que je ne connais pas assez bien la philosophie pour savoir. Oui, mais enfin, on n'est pas sur le problème de savoir est-ce qu'il a donné une pichenette, mais puis après il allait faire autre chose, donc il est autre chose. D'après ça, aussi. On le connaît que comme ça. Il ne sait. Alors c'est pas, nous on pense pas comme ça, mais lui il peut très bien dire, on ne le connaît que comme ça, tout ce que j'en connais c'est ça. Qu'est-ce que je connais d'Hachem ? Alors lui il pourra dire, je veux le connaître que comme celui qui a donné cette fameuse impulsion, qui a mis le monde, qui a fabriqué le monde, ou il a mis le monde en marche, quel que soit le sens, et puis après, il allait faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, la Torah dit autre chose. Mais là, ce qu'on veut montrer ici, c'est que nous avons un récit d'Hachem comme le créateur, et on pourrait dire, il n'est que le créateur.
Oui, mais apparemment, non, si on lit la Torah.
Alors, quand on lit la Torah, mais c'est déjà plus dans le récit de la création. C'est déjà autre chose. Alors maintenant, on pourrait dire, est-ce que si je m'en tiens qu'à la création, est-ce que je vois.
On n'a pas le droit de dire ça. Le juif, il n'a pas le droit de dire ça. Il ne croit pas dans la Torah. Puisque on est en train de, là, ici, de détailler son
intérêt. C'est fou, on ne peut pas travailler avec ces religieux, là. Ils sont tout le temps en train de ramener des. Je ne sais pas possible. Comment on peut travailler avec ces religieux ?
Si ça s'arrêtait effectivement au premier chapitre de la Torah, on pourrait dire qu'il est simplement créateur, il a fait. Et puis après,
le point de départ, c'est que c'est Vaïga Barakov, il a atteint l'endroit. Et on utilise, et on y rebondit sur le fait qu'il y a dans d'autres endroits dans la Torah où Makom est associé à Kadosh Baruch Hu. Or, au niveau Radé Pakret, Makom, un lieu, pardon, c'est nécessairement limité, c'est un point, c'est circonscrit. Et donc, c'est paradoxal, c'est même impossible à comprendre comment on peut associer quelque chose qui est limité à la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, si à la fin de cette histoire qui vient nous dire, finalement, on est en train de nous dire que c'est surtout pas un lieu circonscrit. C'est celui qui enveloppe ce lieu-là et qui en plus a d'autres fonctions. Donc il ne faut surtout pas associer à la Kadosh Baruch Hu au mot lieu. Il est au-dessus, entre guillemets, du lieu.
La critique, elle vient de ce que on s'est permis, c'est ça qu'on dit, Mipnema Mechanin Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi on est allé chercher un surnom, un autre nom pour HaKadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce qu'il avait ? C'était trop long. C'est, sur Twitter, ça prend trop de lettres. On ne peut pas en parler. Et Corinne Otto Makom, c'est une deuxième question. Comment peut-on se permettre de l'appeler Makom, qui est, comme tu dis effectivement, un mot inadéquat, et du coup, quand tu l'appelles Makom, alors la question naît de savoir, Makom, Mahon, c'est drôle ces noms-là. Ce sont des noms d'une demeure ou un lieu, etc. C'est tous des noms qui ont l'air qui posent problème. Et à cause de ces noms-là, d'accord, on vient te dire, mais ne te trompe pas, n'est-ce pas ? Je te parlais d'un lieu, et a priori, on pense que Hachem existe, si on veut. Et donc, s'il existe, il a un lieu. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'il s'appelle lieu ? Je l'appelle lieu, je le nomme lieu. C'est un peu ambigu. Alors, on te dit un instant, Pourquoi je l'appelle lieu? Pas parce qu'il a lieu grâce à quelque chose d'autre, mais que toute chose n'a lieu que grâce à lui. Il est le lieu absolu, c'est ça qu'on veut dire. Et alors maintenant, ce qu'on veut dire par là, c'est que, au fond, à cause de cette terminologie de Makom Mahon, ici, on a un problème, il y a une ambiguïté, on ne sait plus très bien dans quel sens le sortir. Et alors il dit, mais ne te trompe pas, l'idée de Makom, d'accord, pour comprendre les choses, tu prends cette parabole ici, avec cette parabole, je te donne à comprendre comment, avec un attribut, quand les armes d'Hachem, c'est pas lui, mais quand il est dans sa fonction de guerrier, alors c'est un de ses attributs. C'est un des attributs d'Hachem, les armes. Donc ça veut dire d'entourer le monde, de prendre le monde en charge, ce n'est qu'un des attributs, qu'une des facettes d'Hachem.
Oui,
mais des facettes, il y en a plein d'autres.
Ça veut dire que le protecteur est plus que ce qu'il protège.
Bien sûr que le protecteur est plus que ce qu'il protège, mais c'est pas simplement qu'il est plus, c'est que ça n'est qu'une de ses facettes. C'est que dans son rôle de guerrier, comme le guerrier, il n'est pas que ça. Il y a un moment où il rentre chez lui et il n'est plus le guerrier.
Alors moi, je reviens à la... Mais alors, pourquoi a-t-il fallu donner un autre... Pourquoi a-t-il fallu...
À ça, on n'a pas répondu.
Pourquoi il faut donner...
On a expliqué pourquoi. On a expliqué qu'on l'appelle Makom parce qu'effectivement, il donne lieu. Ça, ça comprend. Il donne lieu, il fait exister tout.
Ça,
avec l'ambiguïté qu'on sait plus, qu'on a levé avec la parabole, mais pourquoi à la première question qui était Mipneima Mechanin Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, pourquoi si ces deux questions, si, moi je l'ai lu comme deux questions, mais s'il y a deux questions, à cette première question on n'a pas répondu. Pourquoi faut-il lui donner le nom de Makom? D'ailleurs, si on avait donné un autre nom, j'aurais posé la même question. Dans tous les jardins d'enfants, quoi.
Il est où? Je prends, mais il est où? Où est-ce qu'il est? Ça bouleverse les gens.
Sur le lin.
Parce qu'on connaît.
Non, il est partout.
On sait ici que de plus en plus, voilà, l'infini, on a ce sentiment d'infini. Et où est-il? Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre les points sur les lignes en disant que bon, c'est lui qui est le lieu du monde, et c'est pas l'inverse.
Oui, la question « où » ne se pose pas.
Elle. Répond à ces questions-là.
La question que je pose, c'est « où sommes-nous ?»
Pardon ?
La question que je pose, c'est « où
sommes-nous ?» Nous, on est là.
Donc, c'est ça la réponse ?
C'est... Oui, non, mais ça n'explique pas le pourquoi on a changé son nom. Enfin, pourquoi, on n'a pas changé le nom, on continue de dire à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un besoin de donner un autre nom.
Mais de ce point de vue-là, c'est bien, c'est-à-dire parce que c'est dire qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas incarner. On ne peut pas le fixer sur un lieu. C'est son problème, en fait. C'est notre problème vis-à-vis de lui. Donc de ce point de vue-là, c'est un paradoxe d'utiliser ce nom. C'est pour ça que c'est le meilleur film qu'on pourrait trouver. Il veut dire qu'il est lieu où il n'y a pas lieu.
C'est un bon nom. On l'a expliqué, mais on n'a pas expliqué. S'il fallait donner un nom, c'est un bon nom. Mais pourquoi fallait-il donner un nom? Pardon?
Il en a déjà plein, des noms. Chacun de ces noms correspond à un de ses attributs. Là, on voulait lui donner le nom.
Mais ça, c'est aussi un attribut, n'est-ce pas? Ce qu'on veut dire, ça n'est qu'un attribut.
C'est une façon d'écrire. Il est le lieu de tout ce qui est.
C'est la réponse, c'est pas Ésaïe 33, justement, c'est qu'il a bien lui donner un nom pour que Moshe trouve sa place avec Hachem.
Il y a comme une dégradation.
S'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas besoin de ma comité.
Il y a comme une dégradation, puisqu'il passe de l'énorme du monde à Balik.
Ça,
Moi, c'est vraiment majestueux.
C'est pas un bol, ça.
Non, c'est plus. C'est peut-être pas une dégradation, mais quelque chose de plus.
C'est plus chaud.
C'est
plus chaud.
Oui, il y a un versement, mais plus en relation.
Oui, c'est. Un lieu, ça peut être un lieu ouvert complètement, tandis qu'une demeure, un mahon, c'est fermé.
C'est pour ça que tu as marqué la Yivga, c'est-à-dire que c'est pour qu'il y ait une rencontre.
Oui, d'ailleurs, on va expliquer que. Enfin, une des drachot, c'est que Pegia, le substantif construit sur le verbe Vayivga, c'est un substantif qui veut dire prière. Vayivga Bamakom, ça veut dire il a prié Hachem. On va le retourner, puisque Makom veut dire Hachem, alors comment il est rentré dans Hachem? Oui. Il a prié. Ça veut dire, en fait, c'est intéressant de voir que Vayivga, que la Pegia, que la prière s'est touchée, comme touchée dans l'escrime, quoi, quelque part. Pogia, c'est je te touche. Ouais. Il touche le lieu. Il touche.
Qui
Yaakov. C'est Yaakov.
Faire ce
jeu de mots
si on
n'avait
pas appelé
Hachem
Matin.
Par exemple. Oui, c'est vrai.
De ce point de vue-là, c'est mieux pour dire parler de toucher. Parce qu'il y a l'idée de cette vision.
Peut-être, oui.
J'ai pas compris là encore pourquoi on a eu besoin de la parabole pour comprendre.
Parce que dans le. Parce que dans le. Quand vous dites qu'il est le lieu de, on n'a pas introduit qu'il est le lieu, mais on ne sait pas s'il est autre chose que ça. Si on l'appelle, c'est son nom. Alors, est-ce que son nom épuise? Est-ce qu'on a dit tout ce qu'il était avec ce nom-là? Et donc, il est un lieu. Il est le lieu. Mais être le lieu, ça ne veut pas du tout dire. Qui a une quelconque protection, qui a une prise en charge, etc. Et d'ailleurs, on voit très bien pourquoi nous avoir apporté à la fois Makom et Mahon. Parce que comme on a dit, il y a le lieu et puis il y a la demeure, il y a la maison, si on veut. Vous avez déjà ça dans la notion dans le Beit HaMikdash. Pour Avraham Avinu, le Beit HaMikdash, c'est une montagne. Ben, il voit le Har, c'est pour lui c'est le Har Moria, ça se voit comme une montagne. Pour Yaakov, pour Yitzhak Avinu, le Beit HaMikdash, c'est un lieu de travail, c'est un champ, on laboure, etc. Et pour Yaakov Avinu, c'est une maison, un bait. Donc il y a ces trois éléments, en fait, qui correspondent aux trois avot, mais ici il y a en tout cas deux éléments qui sont mis en évidence. Un qui est la notion de lieu, mais comme on dit, le lieu ça peut être ouvert, quoi. C'est un lieu. Et dans le lieu, il n'y a pas de relation autre que c'est ici que ça se passe, quoi. Mais c'est tout. Les ici n'entrent pas en relation avec avec ce qui est posé ici. Il y a un contact, si on peut parler comme ça, même ça pourrait être sans contact, même c'est un lieu, c'est à cet endroit-là. Mais
il n'est pas que lieu, et la parabole fait qu'on comprend qu'il n'est pas que lieu parce qu'il est guerrier. Ouais. C'est parce qu'il y a les armes.
Oui, c'est les armes qui nous permettent.
Le polo, ça pourrait être aussi.
Bon, ça irait aussi avec son truc de polo, d'accord. Mais seulement le polo, il l'aurait mis que d'un seul côté.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que il est autre chose que le lieu, par les armes. Parce qu'il est guerrier.
Il aussi, c'est
pas. Oui, non, il a beaucoup, bien sûr. Il est aussi guerrier, ça c'est Nachira qui nous le dit. Mais ici, dans l'image, dans la parabole, on utilise cet exemple des armes pour dire que quelque chose qui appartient au guerrier, mais qui n'est pas lui-même, c'est peut-être dans son rôle de guerrier, il faut qu'il ait des armes. Mais c'est, lui-même, il est aussi autre chose, c'est un homme qui est sur ce cheval. Et on a des psukim qui parle de qui tirkav al susecha, etc. C'est pas obligatoirement quelque chose qui ferait référence au fait de chevaucher. C'est des images. Là-bas aussi, c'est une parabole. C'est un lieu qui se trouve.
Quand on lit dans la Torah, il est très clair avec Moshe. Il lui dit voilà, Moshe lui dit mais alors, je vais aller voir Pharaon, qu'est-ce que je vais lui dire, me demander comment tu t'appelles. Il lui dit ben, tu diras Yé,
Hacher, Yé. Eke, Hacher, Eke.
Et l'autre, c'est parce qu'il était très grand. Mais il l'a dit à Moshe, son nom. Pourquoi on en a besoin, nous les hommes, de.
C'est une forme, de déploiement, on peut dire, de j'aime pas le mot attribut, mais des facettes.
Et comme si tu regardais une chose, si on peut dire comme ça, quand Moshe lui a posé directement la question, il a répondu ça, donc c'est ça.
Oui, mais ça c'est un des noms. Et qu'est-ce que c'est ce nom? C'est pas un nom, c'est un discours. Et qui a chéréqué, je serai ce que je serai. Tu vas comprendre. Oui. Et quand on a expliqué, je serai ce que je serai, ça veut dire, je serai avec vous comme je le suis maintenant. Donc il était en train de leur annoncer d'autres galouillottes. Mon cher Rabbeinu a dit, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Écoutez, ça vaut la peine de sortir d'Égypte parce que ne craignez rien. Il y en aura d'autres, des exils. On ne vient pas vous priver de quoi que ce soit. Alors il a dit, Hachem lui dit, bon, tu dis ça dans le début.
C'est comme ça qu'il a répondu à la question de Moshe,
non, c'est ça son intention. Oui, mais Moshe lui a dit, mais je ne peux pas dire ça. C'est un nom que je ne peux pas leur dire. Voilà, on va s'arrêter là.
Thank you.